Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui dans cette nouvelle saison d'Histoire et Mémoire organisée par Radio Grand Ciel. Je suis Éric Lenude, je suis enseignant à Dreux. Pour tout dire, finalement je suis troué, passionné par l'histoire locale, l'histoire de notre petite ville. Et pour cette session, c'est la Société des Amis du Musée qui a proposé un certain nombre de sujets qui ont trait à notre histoire locale. Ce sera l'occasion également de découvrir cette histoire locale à travers nos archives. Les archives du bailliage, les séries B, qu'on peut trouver aux archives départementales, ou bien les archives communales, où l'on peut consulter les registres paroissiaux qui enregistrent les baptêmes, les mariages et les inhumations sous l'Ancien Régime, puisque la période que nous allons étudier là, dont nous allons tirer un certain nombre d'exemples, c'est le XVIIIe siècle. Alors j'ai souhaité aujourd'hui ouvrir le banc d'une série d'émissions qui ont été programmées par la Société des Amis du Musée de Dreux en vous parlant aujourd'hui d'un point qui peut paraître particulier, anecdotique et qui pourtant est très important. Ce sont les déclarations de grossesse à Dreux au XVIIIe siècle. Les déclarations de grossesse, vous allez me dire, pourquoi, quelle drôle d'idée. Eh bien, d'abord, il faut savoir que c'est toujours été un souci des pouvoirs publics de se préoccuper de cette question des grossesses, des naissances, et pour diverses raisons d'ailleurs, mais une principale qui est le contrôle des naissances et le contrôle de l'infanticide. Alors, je voudrais vous parler de ça aujourd'hui parce que nous avons à notre disposition à Dreux un relevé important de ces grossesses qui ont été relevées par Madame Édouard. Madame Édouard, c'est une dame qui malheureusement n'est plus avec nous, mais qui a passé une longue partie de son temps libre à travailler à la fois sur les registres paroissiaux de Dreux et également sur les tribunaux de justice. On dirait aujourd'hui les justices de paix, mais on est au XVIIIe siècle et on appelait ce tribunal le tribunal de bailliage. Et c'est précisément de cette source archivistique que j'ai tiré un certain nombre de ce qui nous apparaît pour nous être des anecdotes, qui étaient à l'époque des drames humains, des déclarations de grossesse à Dreux au XVIIIe siècle. Alors, je disais que les pouvoirs publics ont toujours essayé de lutter contre les avortements, les accouchements clandestins, les abandons et espérer aussi prévenir les infanticides. Et un édit a été promulgué par Henri II et c'est souvent à cet édit qu'il est fait référence dans nos récits des déclarations de naissance. Cet écrit d'Henri II de 1556 et puis par Henri III en 1585 obligeait les filles non mariées, les veuves, à déclarer sans frais devant une autorité. C'était un juge, en l'occurrence là le juge au bailliage, un greffe, un notaire à Paris par exemple, ou un commissaire, de déclarer leur grossesse sous peine de mort. Les prêtres devaient régulièrement rappeler ces dispositions légales tous les 3 mois lors de la messe. Alors, je ne vais pas abuser des citations, mais je vais vous lire quand même un petit peu le contenu de cet édit. « Toute femme qui se trouvera dûment convaincue d'avoir scellé, couvert ou occulté tant sa grossesse que son enfantement, sans avoir déclaré l'un ou l'autre et avoir pris de l'un ou l'autre témoignage suffisant, même de la vie ou la mort de son enfant lors de l'issue de son ventre, et qu'après que l'enfant ait été privé tant du Saint-Sacrement, du baptême que de sépulture publique et accoutumée, soit telle femme tenue et réputée d'avoir homicidé son enfant et pour réparation punie de mort et dernier supplice. » C'était un petit peu long, mais je voulais quand même préciser que la chose était prise très très sérieusement. Donc, pour nous, et pour faire simple, on va retenir que c'est une obligation légale depuis le XVIe siècle que de déclarer sa grossesse. Pour nous, ces récits de déclaration de grossesse sont une source extraordinaire sur la vie, les habitudes, les peurs, les craintes qui sont liées aux grossesses. Ces récits nous donnent le nom de la mère, bien entendu, souvent des références de ses parents, l'endroit où ils vivent, leur profession. Et très souvent, on nous donne également le nom du suborneur, du séducteur. Il est consigné dans l'acte. Ceci pouvait permettre de demander au père de participer aux frais. Il peut s'agir parfois de circonstances dramatique, de viol. Je vous donnerai quelques exemples un petit peu pour qu'on ait un petit peu à l'idée de ce que ça pouvait représenter, comment cela a été vécu, les conséquences que ça impliquait pour la mère et l'éventuel violeur. Le nom du père est parfois connu Parfois non, on essaie dans certains cas même d'extorquer le nom du séducteur à la jeune femme, mais ce sont des pratiques qui ont été quand même vite dénoncées et abandonnées. Le procédé a été condamné par le Parlement de Paris. Ce que je voudrais dire quand même avant de commencer, c'est de faire attention. On ne peut pas non plus prendre ces témoignages pour argent comptant. Il y a différentes situations dans lesquelles on peut imaginer que la jeune femme raconte une histoire parce qu'elle n'ose pas dire la vraie histoire à ses parents, ne donne pas le nom du père, c'est fréquent, peut inventer le nom du père. On peut imaginer que de dénoncer quelqu'un qui a une bonne situation peut permettre d'obtenir une forme de réparation. Donc, je ne mets pas systématiquement, bien sûr, la parole de ces jeunes femmes en doute. Les situations sont totalement diverses, comme vous allez le voir. Et puis, sans vouloir être exhaustif sur la question, eh bien, je vous propose peut-être de commencer et d'énumérer quelques-unes des situations les plus fréquentes, et puis d'autres, un peu moins, que l'on peut retrouver au gré des feuilles de ces déclarations de registre de bailliage. Donc, avant de débuter l'énumération d'un certain nombre de situations, je voudrais revenir sur ce que je vous disais précédemment, sur des déclarations qu'il fallait parfois peut-être prendre avec précaution, et puis des déclarations qui sont parfois suspectes. Je vais vous prendre l'exemple d'une déclaration suspecte, parce que vous allez comprendre, la jeune femme est suspectée d'infanticide. Je vais vous faire une petite lecture qui est le serment type de la sage-femme, puisque c'est une sage-femme qui a assisté la parturiente, qui fait une déclaration. Alors Marie-Élisabeth Petit est une fille majeure, il faut entendre qu'elle a plus de 25 ans, et elle est femme d'un de M. Petit Robert, qui est un marchand bonnetier, et d'une maman qui s'appelle Marie-Thérèse Amoreau. Elle demeure précisément chez son oncle Amoreau, qui est quelqu'un d'important à Dreux, qui est un ancien procureur, substitut du procureur du roi au bailliage, rue de l'Évêché. Elle est enceinte de 8 mois, il était peut-être un petit peu temps qu'elle fasse sa déclaration quand même, d'un homme qu'elle dit être inconnu. Elle désigne quelqu'un qui servait dans les troupes du roi, qui était logé chez le dit Amoreau, son oncle. Alors finalement, c'est peut-être pas si difficile que cela à retrouver, mais ce n'est pas l'essentiel. Le certificat médical de la sage-femme se présente de la manière suivante. Nous, jurés sage-femme de la ville de Dreux, y demeurant, sous-signés, certifions qu'à la réquisition de M. Amoreau et de son épouse, nous nous sommes transportés aujourd'hui en leur maison. Je vous passe quelques expressions, et qu'ils ont visité la demoiselle Agnès Petit, qui a finalement accouché sur l'heure de minuit, et pendant le cours de l'opération, quelle surprise, s'est présenté un enfant, nous dit-on, du sexe féminin, sans aucun signe de vie, et non à terme, âgé de 8 mois ou environ, dont partie du corps était putréfiée par accident de blessure ou de chute. Voilà, je n'en dis pas plus, je pense que vous avez compris la raison pour laquelle la sage-femme est extrêmement précise sur l'accouchement de la jeune fille. Voilà. Mais vous avez un condensé de ce type de formulaire, entre guillemets, de déclaration type des sages-femmes. Difficile de comptabiliser le nombre de déclarations. Théoriquement, toute femme qui est dans une situation particulière, qu'elle ne soit non mariée, qu'elle soit veuve, doit faire une déclaration. Mais nous travaillons sur un corpus quand même de plusieurs centaines et nous avons extrait quelques-unes que nous allons étudier. C'est tout à fait arbitrairement que nous avons extrait un certain nombre de ces déclarations de grossesse. Alors, je crois que le lot le plus important, ce sont les promesses de mariage, les promesses de mariage qui sont faites aux jeunes filles. Je vais vous parler par exemple de Bonne Germain. Bonne Germain est une jeune femme, elle est mineure, elle est considérée comme, elle a 20 ans, donc elle est considérée comme mineure. Son père est aubergiste à Dreux avec son épouse. Il s'occupe de l'auberge Sainte-Barbe qui est à Dreux, là toujours, là où est l'actuelle place Sainte-Barbe. Elle est enceinte de 5 mois. Alors, est enceinte des œuvres d'un certain Fontaine. Alors, c'est le fils de la veuve Fontaine. Fontaine est un jeune garçon qui est garçon boucher à Paris. Il a un certain prestige. Ses parents, à Dreux, habitent le faubourg Saint-Denis. Ils y sont marchands de vaches. Donc, c'est quand même un bon parti pour Bonne Germain. Le problème, c'est qu'elle est tombée amoureuse et que le sacripant lui a proposé à plusieurs reprises le mariage. Il a abusé d'elle, il l'a compromise en réitérant un certain nombre de fois ses promesses qu'il n'a bien sûr pas tenues. Il était venu à Dreux Bon, c'est très précis, hein. C'était pendant une partie du carême, hein, du carême dernier. On est là en 1776. Et voilà, Bonne Germain est enceinte et je n'ai pas retrouvé mention d'un mariage avec le fameux Fontaine. De façon classique, traditionnelle, je vous citerai une naissance, une déclaration de naissance en janvier 77 qui vient d'une jeune femme qui s'appelle Marie-Louise Parose. Elle est majeure, cette jeune femme, donc plus de 25 ans. Elle demeure au château de l'Épinay. L'Épinay, c'est un château qui n'existe plus, qui était situé entre Vernouillet et Imbermey et qui a été détruit en 1944 par les Allemands pour agrandir les pistes du camp d'aviation. Marie-Louise Parose, elle est enceinte, elle est femme de chambre au château de l'Épinay, et elle est enceinte de 7 mois et demi au moment où elle fait cette déclaration de Charles Hébert. Charles Hébert est un domestique de Madame de l'Épinay, un domestique assez intelligent qui est l'homme de confiance de l'Épinay. Il l'a séduite sur la promesse de l'épouser. Alors, je voudrais rajouter deux choses quand même sur cette situation un petit peu particulière, c'est que Charles Hébert, on le connaît bien, et il finira par s'acquitter de ses obligations. Il épousera Marie-Louise et ils auront ensemble d'autres enfants qui naîtront de manière un petit peu plus conventionnelle. Et puis, je voulais citer Hébert parce que bon, le malheureux aura un destin particulier puisqu'il était le serviteur de l'Épinay et qu'il accompagnera son maître et son seigneur sur l'échafaud. Je voudrais vous parler maintenant de Marie-Madeleine Leroy, qui, elle, a été abusée dans les deux sens du terme. La malheureuse, le 5 janvier 1780, vient déclarer sa naissance. Elle est enceinte, là, de 7 mois et demi. Elle s'appelle Marie-Madeleine Leroy. Elle est majeure. Elle a 37 ans. Mais elle était fille d'un berger. Hein, et tombe amoureuse de Claude Maillot. Maillot est un maçon de la Madeleine de Nancourt qui abuse d'elle dans le temps où elle a été domestique chez le curé de Saint-Germain-sur-Avre. Alors, Maillot travaillait à réparer l'église de Saint-Germain-sur-Avre, mais il devait lui rester un petit peu de temps puisqu'il allait rencontrer Marie-Madeleine Leroy, qu'il trouvait le temps de lui faire des promesses en lui disant qu'il était veuf, et il avait un peu précipité les choses. Il n'était pas tout à fait veuf en réalité. Il était marié, sa femme l'avait quitté. Sa femme est revenue, il s'est trouvé dans un choix un petit peu délicat, et il l'a fait attendre, hein, en lui disant qu'il n'était pas encore prêt, et finalement, mais finalement, il l'a abandonnée. Donc elle tient à le préciser. Ça n'implique pas grand-chose pour l'instant de douloureux pour Maillot, mais bon, elle tient quand même à préciser quel est le nom du père, du suborneur. Vous allez me dire que, quand même, les jeunes femmes de l'époque du XVIIIe siècle se laissent facilement abuser. Vous avez vu que là, quand même, on avait affaire à une personne de 37 ans qui, quand même, a réellement cru qu'on allait lui proposer le mariage. Ceci dit, cet homme-là n'était pas libre. Je vais vous parler de Marie-Louise Jouan. Maintenant, Marie-Louise Jouan fait ses déclarations en mars 1780. Elle est domestique à Versailles. Elle est fille d'une famille Jouan des Buissons, hein, à Dreux. Donc elle travaille à Versailles chez un honorable commerçant qui s'appelle, un boulanger qui s'appelle Petermann. Boulanger, marchand pâtissier plutôt, traiteur, demeurant à Versailles. Donc elle est domestique depuis la mi-juillet. Et il se trouve que pendant que Madame Petermann avait le dos tourné, eh bien Monsieur Petermann essayait d'entreprendre Marie-Louise Jouan. Et Madame Petermann, très rapidement, s'est aperçue de l'amitié que son mari portait pour la comparante et lui conseilla de se retirer. Je crois qu'il faut qu'on comprenne qu'elle l'a mise à la porte réellement, hein. Elle lui a proposé d'ailleurs d'aller chercher une autre place. Donc elle se retire en effet dans un cabinet garni à Versailles, et ce cabinet garni, eh bien, qui paie? Eh bien, c'est bien sûr le fameux Petermann qui loue pour elle afin qu'elle ne soit pas sur le pavé, dit-il. Mais ceci dit, elle n'est pas pour autant débarrassée de Petermann qui continue de la poursuivre de ses assiduités. Il venait la voir dans sa chambre et, eh bien, le 19 avril 1780, c'est la naissance d'une petite Marie-Angélique. Alors, que va devenir Marie-Louise Jouan? Ben, finalement, elle va se marier. Alors pas avec son suborneur, pas avec son amoureux de pâtissier, mais avec Louis-Vincent Moulin. Elle se mariera donc, et dans la plupart de ces situations-là, eh bien, l'enfant est légitimé par le mari.
Thank you.
La plupart des situations de ces jeunes femmes est délicate, hein. Elles sont souvent placées. Là, nous avons eu l'exemple d'une subornation faite par le patron, hein. C'est souvent le cas. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui de surcroît est noble. Je pense par exemple à Hélène Françoise Drouès qui vit dans le faubourg Saint-Jean. Nous sommes en mai 82. Elle n'a pas de nom de famille, et pour cause, elle a été achetée, elle est qualifiée de négresse, elle a été achetée en réalité au Bengale par son propriétaire, son maître, son seigneur, qui est le sieur de Jarry, il y a environ 15 ans. Elle n'a pas su, bien sûr, déclarer le nom de son père et de sa mère. Elle était très jeune lorsqu'elle a été achetée, et en 82, elle est enceinte de 6 mois et demi des œuvres d'un inconnu. Nous sommes le 24 septembre 1788. Françoise Poulain, une jeune Drouaise, fille d'un couple de Drouais, Guillaume Poulain, qui est tailleur, qui demeure à Dreux, et de sa femme Catherine Boucher. Françoise Poulain vient déclarer une naissance. Elle demeure à Dreux chez Monsieur Defeuquières, qui est quelqu'un d'important, hein, qui est un capitaine du régiment royal Roussillon, et qui est actuellement en garnison à Saumur, mais qui réside, lorsqu'il est libre de ses obligations militaires, au Vieux-Pré, paroisse Saint-Pierre de Dreux. Elle déclare être enceinte de 7 mois de son dit seigneur, hein, donc le Defeuquières, hein, son maître qui, dit-elle, l'a abusé sous la promesse qu'il ne l'abandonnerait jamais et que même il l'emmènerait à son régiment. Les naissances de ces enfants qui voient le jour de façon illégitime ne se passent pas toujours comme ça sans conséquences. Et pour certains, il y a des procès dont le but est d'obtenir réparation. Et puis à l'époque où n'existent pas les tests de paternité, les femmes ont souvent à cœur d'affirmer qui est le véritable père de l'enfant. Je voudrais vous parler peut-être de Mademoiselle Angibou. Madeleine Angibou, elle était mineure, elle demeurait chez Benoît Lacoudre, qui était meunier à Écluzel, et ce meunier avait un ami qui s'appelait Nicolas Tuboeuf. Ce Nicolas Tuboeuf est le fils d'un Nicolas Tuboeuf, drapier drapant. Si je me permets de vous le préciser, c'est que les drapiers drapants occupaient une position éminente dans la ville de Dreux. Et bien sûr, Tuboeuf, qui venait souvent voir Lacoudre, a pris de l'amour pour la petite Angibou, à tel point qu'il lui a plusieurs fois dit qu'il n'en épouserait jamais d'autre qu'elle, et ça avait été l'occasion de beaucoup de fréquentations, de visites de la part de Tuboeuf pendant environ 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, il lui a enfin proposé de coucher avec elle afin d'engager plus facilement sa mère et son beau-père à consentir à leur mariage. Si on peut traduire en disant, s'il y a un enfant, s'il n'est qu'un enfant de notre union, eh bien tes parents accepteront ce mariage. Cette jeune fille honnête, 2 ans et demi, ne lui ont pas suffi. Elle a plusieurs fois refusé. Elle s'est tenue à l'écart des sollicitations, des persécutions de Tuboeuf, malgré le fait que celui-ci disait toujours qu'il n'en épouserait jamais aucune autre. Et puis est arrivé ce qui devait fatalement arriver. Il la connaît charnellement, nous dit-elle, ce dont elle est demeurée grosse. Et de quoi s'est-on aperçu il y a environ 2 ou 3 mois? Elle en parle bien sûr au dit Tuboeuf, qui lui dit que ça ne devrait pas être embarrassant cette histoire, parce que lui il l'épousera et il lui a encore confirmé il y a 8 jours vendredi. Mais depuis 8 jours vendredi, nous dirions aujourd'hui plus de son plus d'image, Tuboeuf cesse de venir voir la petite Angibou et lui fait dire que sa mère, la sienne, Tuboeuf, ne veut toujours pas consentir à ce mariage. Voilà, et donc la maman de Madeleine est furieuse, elle demande une information et Tuboeuf est condamné à faire élever l'enfant, à l'élever dans la religion catholique, apostolique et romaine jusqu'à ce qu'il soit en âge de gagner sa vie et de lui faire apprendre un métier dont il sera tenu d'apporter un certificat de 3 mois en 3 mois. Nous sommes à Dreux, toujours en 1745, et la petite Françoise Guillaumin, elle est grosse d'un certain Jean Lecomte. Et ce Jean Lecomte avait bien sûr promis le mariage. Et Jean Lecomte, lorsqu'on lui demande d'honorer sa promesse, c'est à peine s'il se souvient qu'il a rencontré cette jeune fille. Et ça ne plaît pas du tout à la mère, hein. La mère dit, écoutez, il ne peut pas ne méconnaître ma fille à ce point, je vais vous confier une lettre qu'il lui a écrite. Alors moi, je vais vous en dire quelques mots de cette lettre. Elle est écrite un peu curieusement, sans règle d'orthographe, donc elle est un petit peu difficile, hein. Mais là, on voit bien quand même qu'il la connaissait un petit peu. Hein. Il explique à la petite Françoise, ma chère commère, c'est pour répondre à votre lettre qui m'a fait bien du plaisir d'apprendre que vous êtes en parfaite santé, que je prie le Seigneur de vous la conserver, etc., etc. Il est vrai que j'ai manqué d'aller vous voir récemment au fait de la Pentecôte, comme je vous l'avais promis, mais ça ne s'est pas fait. Je nettoie ma cuisine, il faut que je vous quitte même maintenant. Je ne peux pas continuer mon courrier parce que je suis au plus fort de mon ouvrage. J'irai sans doute vous voir à la Toussaint, peut-être, si vous avez la bonté de m'attendre. Voilà, en substance, les courriers dilatoires hein, d'amoureux qui ont du mal un petit peu à assumer la paternité. Ces jeunes femmes ont parfois du mal à porter la preuve et parfois du mal à produire des témoins qui peuvent attester de la paternité du suborneur. C'est la situation dans laquelle se trouve la jeune Avis. Alors Marie-Ève Avis est enceinte, elle a fait sa déclaration, elle déclare être enceinte des œuvres d'Alexis Brochamp, fils d'un marchand de veau, donc quelqu'un qui occupe une situation intéressante à Dreux, et elle réclame des frais de couche et de subsistance. Pour cela, on lui demande de prouver que le sieur Brochamp est bien le père de l'enfant. Alors elle fait produire des témoins. Certains parlent, d'autres n'ont rien vu et n'ont rien entendu. Ils étaient au même endroit, le même jour, là où cela s'est passé. Louise Gosselin, par exemple, qui est femme de Touzé, qui est un vigneron du faubourg Saint-Denis, déclare que son mari lui a conté, il y a 3 ans, aux vendanges dernières, qu'il avait surpris Alexis Brochamp et la dite plaignante sur les 9 heures du soir dans la grange de la veuve Fontaine, la dite plaignante couchée sur le dos, ses jupons relevés jusqu'aux genoux, et le dit Alexis Brochamp debout devant elle. François Touzé dit la chose suivante. Il est vigneron, 60 ans, il dit, oui, il y a 2 ou 3 ans, aux vendanges dernières, étant chez la veuve Fontaine, laquelle avait compagnie, et Alexis Brochamp étant de cette compagnie, ainsi qu'Yvette Avis, la veuve Fontaine avait chargé le déposant, sur le 9 heures du soir, d'aller tirer du vin doux pour aller en faire boire à sa compagnie, qu'il alla sur-le-champ avec défunt Jacques Fayel dans la grange de la dite veuve Fontaine où était sa cave et qu'en y entrant, il avait vu Alexis Brochamp dans la dite grange avec la dite Yvette Avis, laquelle était couchée par terre sur le dos, les jupons relevés, de telle manière que le déposant vit sa jarretière et le dit Brochamp, debout auprès d'elle, ayant ses deux mains sur les boutons de sa culotte. On ne peut pas être plus précis, hein. Il ajoute qu'à son entrée dans la grange, le dit Fayel et lui furent 4 à 5 minutes sans parler, sans se parler, tant ils furent frappés d'étonnement, et que le même silence fut observé de la part du dit Brochamp et de la dite Avis, lorsque tous furent revenus en compagnie. De retour à sa maison, il conta tout haut cette aventure à son entourage, qui s'en amusa, et le dit Brochamp et Yvette Avis ne reparurent plus. D'autres témoins cités ne vont pas jusque-là et, étant au même endroit, ayant vu la même chose, déclarent n'avoir rien vu, rien entendu. Voilà. Ces naissances hors normes sont parfois le fruit de situations bien plus dramatiques. En 1777, c'est Madeleine Godard qui prétend avoir été violée. Elle a 26 ans, elle est couturière en robe et elle vit à Châteauneuf. Elle dit « Je suis enceinte d'un soldat inconnu, j'en suis enceinte de 8 mois ». Mais j'ai pu repérer un certain nombre d'indices. Hein. Il avait un uniforme et une sorte de cocarde, oui. Elle a été en quelque sorte capturée, les mains liées derrière le dos, dans un bois près des 4 piliers, sur la route de Montfort. Et ensuite, ce soldat et ses amis l'auraient terrassée et violée. Autre récit dramatique, nous sommes en septembre 1778, Françoise Saget est une jeune journalière, elle a 23 ans, donc elle est mineure, elle demeure à Molette et elle est fille d'un cordonnier de Marcilly. Elle déclare être enceinte de 6 à 7 mois, des œuvres d'un particulier qui lui est inconnu et qui est, malgré tout, croit-elle savoir, menuisier du moulin de Sainte-Julienne, près Saint-Arnoult. Elle allait pour se placer en qualité de domestique dans une ferme lorsque elle arrive au moulin et qu'elle aperçoit un particulier, lui demande s'il y a besoin d'une domestique, qu'il lui répond que non et il lui donne un morceau de pain. Cette jeune femme s'en va, mais elle ne s'aperçoit pas que le dit particulier la suit et l'ayant rejointe, il se met à causer avec elle, il engage la conversation, il la questionne. Il la caresse et ensuite il l'entraîne de force dans le petit bois trouleau, épais, dans lequel, malgré les cris de la comparante, il la viole. Après quoi, il la Il détache son cheval qu'il avait attaché dans le mi-bois, il la quitte, elle lui fait des reproches de l'indignité de son procédé et lui dit que si elle ne connaissait pas son nom, elle savait sa demeure et sa profession, et elle raconta son histoire à quelques personnes du village de Sainte-Julienne. Alors là, on est dans le cas avec Françoise d'une jeune femme qui n'est pas forcément de Dreux, qui vient accoucher à Dreux. C'était souvent la situation hein, des jeunes filles de la campagne ou de ces grossesses que l'on voulait dissimuler. Une autre catégorie de jeunes femmes abusées sont celles qui sont sensibles au charme des militaires. Il n'y avait pas de garnison à proprement parler qui était affectée à Dreux, mais de nombreux régiments passaient, c'était le système des étapes, et nombreuses sont les jeunes filles à s'être laissées abuser par le prestige de l'uniforme. En 1788, on a Marie-Jeanne Aufèvre, par exemple, qui est une jeune femme majeure, qui est domestique à Dreux, chez le docteur Guersan, enfin plutôt sa veuve, la veuve du docteur Guersan. Elle est enceinte d'environ 5 à 6 mois des œuvres d'un certain Antoine Mautière, soldat au régiment d'Anjou, lequel l'a abusée sous la promesse de l'épouser. Et ce type de déclaration se multiplie en février 1790. Je vois que la jeune Geneviève Rigaud, qui elle n'a que 22 ans, elle est originaire de Nancourt, hein, elle demeure à Dreux, elle est domestique chez le sieur Tubeuf, qui est lui marchand épicier au faubourg Saint-Jean, et elle est enceinte de 5 mois et demi d'un certain nommé Mathieu. Mathieu, il est chasseur de Lorraine, on a que son prénom, il est en garnison à Dreux, et il demeurait chez le sieur Tubeuf au moment, bien sûr, de la conception de l'enfant. En conclusion, au terme de cet inventaire, un petit peu à la Prévert de toutes ces situations, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce qui vous intéresse là, finalement? Je pense que vous aurez compris que, à travers toutes ces anecdotes, ce sont des drames humains, des drames intimes, qui nous sont révélés par le papier. Et ce papier, ce parchemin, ces vieux supports de papier bouilli, eh bien, ils retrouvent, lorsqu'on les compulse, et lorsqu'on lit toutes ces tranches de vie, ils ont un aspect particulier. Là, ce n'est pas la recherche aride, on est dans l'intérieur de la vie de notre ville, des familles, de la vie amoureuse des jeunes couples de l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la Révolution de 1789, les déclarations de grossesse commencent à tomber plus ou moins en désuétude selon les régions. C'est pas forcément le sentiment que l'on a à Dreux, puisque j'ai l'impression que quand même elles se multiplient. On en rencontrera quand même quelques-unes plus tard dans la série U. Elles sont déposées en règle générale au greffe ou devant le juge de paix. Au terme de cette demi-heure passée avec les auditeurs de Radio Grand Ciel, je voudrais vous remercier de votre attention. J'espère que le sujet vous aura convenu, vous aura plu, et en espérant vous revoir plus tard pour peut-être un petit peu aborder ce que sont devenus ces enfants qui sont nés dans des conditions difficiles.